Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Messieurs, mesdames, soyez les bienvenus. Les juristes ne qualifient pas seulement le droit en termes de valeur, de bon, d'équitable. Ils le pensent aussi à partir des qualités matérielles. Qualités matérielles. Comme s'il s'agissait des propriétés physiques et mécaniques d'un matériau, ce qui est large ou étroit, léger ou lourd, rigide ou souple. Ces métaphores permettent aux juristes de se représenter le degré des contraintes que le droit opère sur la société et offre des points de repère pour l'interprétation des normes. Prenons un exemple contemporain qui a connu un grand succès. Un livre célèbre de Jean Carbonnier, sorti en première édition en 1969, propose la notion de flexible droit. C'est apporter la couverture pour comprendre, ce n'est pas une faute. Flexible droit. Le droit est trop humain, remarque Carbonnier, pour prétendre à l'absolu de la ligne droite, sinueux, capricieux, incertain, tel il nous est apparu, flexible droit, rigueur, raideur, raide comme la justice, c'était autrefois la comparaison courante dans les milieux populaires. Combien de générations de justiciables avaient dû d'abord se rompre les os sur la justice pour en arriver à la juger aussi brièvement. C'est un propos dans lequel les métaphores empruntées à la physique mécanique expriment déjà des jugements de valeur. La rigidité y associée à l'injustice, au détriment surtout des classes les moins favorisées, tandis que la flexibilité liée à l'ouverture, mais en même temps, de façon presque contradictoire, à l'incertitude, au caprice même. Quoi qu'il en soit, pour Jean Carbonnier, il n'y a pas de doute, l'idée de la plus répandue est que le droit est linéaire et inflexible. À partir de ce constat, pour surmonter les défaillances de la justice, il nous invite à découvrir les mérites d'un droit flexible, mieux d'un flexible droit. Alors, réfléchissons, il s'agit d'un oxymore, évidemment, associant deux idées en tension, car le mot droit exprime ce qui est linéaire, sans courbe, et pourtant on le qualifie de flexible, capable de se plier. Un oxymore, donc, est aussi un peu douteux. Mais au fond, me semble-t-il, il réunit des éléments venus de loin. Cette idée de flexibilité était en effet déjà présente chez Aristote. Ou plutôt, Carbonnier réunit, c'est important, il y a deux idées qui étaient déjà chez Aristote, mais Carbonnier réunit ces deux idées en une seule formule. Ces deux idées qu'Aristote distinguait. Dans l'éthique à Nicomaque, rédigée vers 350-330 avant Jésus-Christ, Aristote explique que les normes juridiques posées par les hommes ont une portée générale. Les situations de la vie sont multiples, mais la règle est unique, nous dirions rigide. Dès lors, la loi qui parle en général ne peut pas épouser parfaitement tous les cas particuliers. C'est pourquoi il faut un correctif qu'Aristote appelle epieikeia. Ce mot grec qu'on traduit normalement par équité, mais nous le savons, et nous avons ici aussi même Evelyn Scheid qui vient de sortir un article qui l'explique très bien, epieikeia, ce n'est pas vraiment l'équité, c'est plutôt l'adaptation. Et pour expliquer cette idée d'adaptation, Aristote prend l'exemple de la règle de plomb utilisée par les maçons de l'île de Lesbos. Un instrument souple que le bâtisseur pouvait plier pour suivre les formes irrégulières des pierres. De la même manière, dit Aristote, le juge devrait adapter la norme générale à la réalité concrète. Chez Aristote, il y a donc une distinction claire entre la loi, la norme générale et rigide, et ses correctifs d'adaptation, l'épiekeia, qui revient au juge. L'originalité des Carboniers est précisément de mêler ces deux dimensions dans une seule expression flexible de droit. Autrement dit, il intègre dans la notion même de droit cette capacité d'adaptation de la norme qu'Aristote pensait comme distincte et confiée au juge. C'est ce qui crée l'oxymore, un droit à la fois droit et flexible. Cet exemple montre d'abord, si vous me permettez, que nos réflexions contemporaines sur le droit restent profondément marquées, parfois sans le savoir, par des idées anciennes, ici par la philosophie grecque. Surtout, on voit que l'on continue à penser les droits à travers des métaphores empruntées à la physique, en lui attribuant des propriétés mécaniques comme la rigidité ou la flexibilité. S'agit-il simplement de l'ingéniosité d'un juriste enclin à la créativité tel que Carbonnier ? Absolument pas. Vous connaissez tous la notion, par exemple, de droit mou ou droit souple, qui traduit l'anglais « soft law ». Il s'agit des normes, surtout en droit international, qui n'ont pas de force obligatoire, mais qui peuvent néanmoins orienter les comportements et les décisions. Voilà, c'est encore concevoir les droits à partir des catégories empruntées à la mécanique, frôlant une fois encore l'oxymore. La question de la science d'aujourd'hui est donc savoir si les Romains faisaient eux aussi la même chose et s'ils portent donc une part de mérite ou de responsabilité dans la création de cet univers métaphorique. Vous savez que ce que nous faisons, c'est une sorte de déconstruction de notre propre langage à partir du langage romain qui en est le soubassement, pour des raisons historiques que vous connaissez tous. Commençons par le mot « droit » lui-même. Donc on va réfléchir au mot « droit ». On le sait bien et on le répète à l'envi, c'est un mot que les Romains n'employaient pas. Ils ne parlaient pas de directum, donc ce n'est pas un mot qu'ils utilisaient pour nommer le système juridique. Ce mot directum, d'où vient le mot droit dans les langues romanes, n'apparaît en français qu'au Moyen-Âge. Les Romains, eux, ils disaient « ius ». Pour tout dire, le latin possède deux mots parfaitement homonymes, mais des sens très différents. L'un désigne justement ce que nous appelons aujourd'hui le droit. L'autre est à l'origine du mot « jus », déjà compris en latin comme un liquide extrait d'un corps vivant, végétal ou animal, par pression, cuisson ou transformation. Cette homonymie donnait évidemment lieu à des jeux de mots, et comme vous en doutez, Varron était au premier rang. Dans son traité d'agriculture, par exemple, Varron regrette que les grands viviers marins contiennent des espèces si rares et précieuses qu'aucun cuisinier n'ose les préparer, et il le dit ainsi, « Hospicis nemococcus ius vocare audet », littéralement, « aucun cuisinier n'ose les assigner en justice, ius vocare », mais évidemment, on le comprend, aucun cuisinier n'ose les appeler au jus, donc les mettre au bouillon. Donc c'est un jeu de mots qui est permis par cette homonymie. Alors, il faut dire que parmi ces deux acceptions, c'est celle qui signifie « jus », qui prévaut, a connu la plus large diffusion dans les langues modernes Et aujourd'hui, en français comme en anglais, lorsqu'on dit jus ou juice, on passe d'abord au jus obtenu par pression. En revanche, jus au sens de droit n'a pas eu une postérité vraiment glorieuse. On le retrouve dans des composés, par exemple dans l'adjectif juridique ou dans le substantif juridiction ou même dans le substantif juriste. Donc vous voyez qu'il y a une survivance de cette acception de jus, mais pas pour dire droit en tant que tel. Alors, évidemment, nous allons laisser de côté, disons, la branche la plus qui a connu un plus grand succès, celle qui porte vers le terme français jus, et on va s'occuper du mot droit. Alors, le mot jus n'a pas d'équivalent clair dans les autres langues indo-européennes, ce qui rend son origine, disons, son étymologie incertaine. Les seules comparaisons possibles viennent de l'indo-iranien, notamment l'avestique yaos et le sanskrit yo. Mais elle pose des difficultés morphologiques, c'est-à-dire la transformation de ses racines au mot jus et des sens. Alors, donc, il faut, quand il y a des mystères qu'on ne peut pas dénouer, on se tourne vers Émile Benveniste, qui avait une puissance intellectuelle telle qu'il surmontait les siècles, les difficultés morphologiques, sémantiques. Donc, il nous propose des théories qui sont toujours séduisantes, surtout quand elles sont j'ose pas dire trompeuses, mais quand même elles sont plus séduisantes que vraies. Selon lui, ces termes renvoient à des pratiques rituelles indiquant la purification, la prospérité obtenue par les sacrifices. Il en déduit qu'un ancien mot indo-européen qui serait celui qui occupe cette position de plus haut niveau, mais qu'on ne connaît pas. On peut imaginer un mot comme yaous, quelque chose comme ça, désigner un état de conformité ou de régularité, état, conformité, régularité, imposé par des règles rituelles. Donc en latin, jus aurait d'abord désigné une formule contraignante. Formule contraignante. Une parole à respecter pour atteindre un état de pureté rituelle. Difficile à dire si c'est vraiment le cas. Ce qui est certain, c'est que le mot jus en vient ensuite à désigner à Rome des domaines, des pratiques, des formes de pensée correspondant à ce que nous appelons aujourd'hui le champ juridique. Donc, le droit. Donc, ce que je veux dire, c'est que faire de l'étymologie pour comprendre qu'est-ce que les Romains comprenaient par le mot « jus » est vraiment très dangereux. Dangereux, il n'y a pas de risque, sauf les risques de la déception intellectuelle. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, lorsqu'on n'a pas des éléments forts pour dresser une étymologie, on risque de rétroprojeter nos idées sur, disons, la vie intérieure des mots. Donc, ce n'est pas le mot qui a survécu pour désigner le système juridique. Le mot que nous employons, c'est plutôt le mot « droit » dans la langue romane. Et vous savez, aussi en allemand, on parle de « recht ». Alors, le mot « droit » est d'abord un adjectif, avant d'être un substantif, évidemment. Et « droit » désigne, nous le savons tous, ce dont la forme suit une ligne droite, sans angle ni courbure. Alors, comme substantif, et justement pour indiquer les droits, on le trouve déjà en latin dans le serment de 802 exigé de tous les fidèles de l'Empire par Charlemagne. Alors, si connu soit-il, il importe de le relire, vous me permettrez de le lire en traduction française moderne. Donc, vous voyez le latin. Bon, je peux le lire aussi en latin. Promitto ego quod abisto die in ante a fidelis sum domno carolo piissimo imperatori, puramente d'un esprit sincère. Donc c'est le, celui qui prête serment, qui dit qu'il a un esprit sincère, sans fraude ni mauvaise intention, ausque fraude et mal ingenio, de ma part, de mea parte, envers la sienne, vers Charlemagne, et pour l'honneur de son royaume, et ad honorem regni sui, sicut per drictum debet esse homo domino suo, comme un homme le doit, selon droit, d'être envers son seigneur. Donc, sicut per drictum, cela veut dire, c'est un devoir imposé par le droit. Donc, nous voyons apparaître dans le latin du Moyen-Âge, tout début du IXe siècle, ce mot « drictum » qui est l'ancêtre de notre mot « droit ». Évidemment, on va le voir, c'est une petite transformation morphologique parce qu'on devrait dire « directum ». Mais donc on trouve déjà cette, comment dire, il y a déjà cette orientation qui va mener vers droit. Donc vous voyez, les deux, il y a eu une chute de la première voyelle, directum, et donc on va vers le mot roman droit. Alors, nous voyons ici le mot latin déjà un peu transformé, mais nous sommes encore en latin. 40 ans après, dans les serments de Strasbourg, nous en voyons la transposition en langue vernaculaire, aussi bien dans la version en langue d'Oyle que dans celle en ancien haut-allemand. Vous connaissez tous le récit que Nithard fait de ses serments. Le 14 février 842, lui et Charles se rencontrèrent dans la ville autrefois appelée Argentaria, aujourd'hui connue sous le nom populaire de Strasbourg. Ils échangèrent les serments rapportés ci-dessus, lui en langue romane et Charles en langue germanique. Donc, ce sont les serments qui ont été prêtés par deux des petits-fils de Charlemagne, lui le germanique et Charles le Chauve, dans leur lutte contre leur frère Lothaire. Donc, ce sont des serments réciproques entre lui et Charles, contre, pour céder, s'impliquer, s'engager, de lutter contre Lothaire. Alors, voyons d'abord ici le serment prononcé en ancien français par Louis le Germanique, roi de Francie orientale, futur Saint-Empire romain germanique. Je ne vais pas le lire tout. Bon, on va lire la traduction, après on va revenir aux mots qui nous intéressent. Pour l'amour de Dieu, pour le peuple chrétien, notre salut commun, partir de ce jour de l'an avant, dans la mesure où Dieu me donnera savoir et pouvoir, je soutiendrai ce mon frère Charles pour mon aide en toutes choses, comme on doit, selon droit, soutenir son frère, à condition qu'il fasse de même pour moi, avec Lothaire. Je ne conclurai jamais aucun accord qui, de mon plein gré, puisse nuire à ce mon frère Charles. Alors, si vous avez à l'esprit, en mémoire, le serment de fidélité qu'on prêtait, que tout le monde prêtait à Charlemagne, vous voyez que ce sont des serments qui se rapprochent beaucoup de la teneur du serment qu'on prêtait à l'empereur. Alors, le mot, le propos qui nous intéresse, si cum homme per dreit, son fradra salvar dist, comme on doit, selon droit, soutenir son frère. Alors, vous voyez ici apparaître pour la première fois le mot droit en français, langue d'œil. Et vous voyez aussi que c'est la transformation du mot latin, c'est-à-dire il y a déjà cette transformation de directum à drictum à drait, ici. Bon. Les serments réciproques prêtés à un vieux au allemand, Alt-Hochdeutsch, par l'autre frère, c'est-à-dire par Charles le Chauve, roi de Francie occidentale, futur royaume de France, presque identique dans son contenu, et donc c'est vraiment le serment réciproque, symétrique, mais on voit apparaître ce mot qui est l'ancêtre du mot Recht en allemand, mit retu, et vous voyez que c'est vraiment le même propos, ainsi je soutiendrai ce mon frère comme on doit, selon droit, soutenir son frère, mit retu. Ainsi, à partir du latin tardif directum, que nous avons trouvé dans le serment de Charlemagne sous la forme de drictum, dans les serments de Strasbourg, le mot dreit, qui donnera droit, et son homologue retu, qui donnera recht, ont déjà remplacé ius. C'est ça qui nous intéresse. Donc on voit que le mot ius, en tant que mot qui signifierait le système juridique, a déjà été remplacé par cet autre mot avec une sémantique différente. Alors, et c'est justement ça qui frappe les historiens, car on y voit souvent une transformation profonde de la conception du droit. Peut-être sous l'influence chrétienne. Alors, je ne conteste pas qu'il y ait eu une transformation, mais à trop l'accentuer, on risque de passer à côté d'un fait qui, me semble-t-il, est essentiel et sur lequel je voudrais attirer aujourd'hui votre attention. Le fait est que la rupture avec le latin est en réalité largement apparente. Certes, le terme dominant en latin jusqu'à la fin de l'Antiquité, pour dire le droit, nous l'avons compris, est « ius », mais le vocabulaire juridique latin est déjà profondément traversé, structuré par l'idée de rectilinéarité et de rectitude qui finira au Moyen-Âge par s'imposer dans le mot « droit ». Pour le démontrer, nous devrions examiner tout le lexique juridique romain. Ne vous inquiétez pas, cela ne sera n'est pas nécessaire, car j'espère vous convaincre assez rapidement. Alors, pensons à un mot clé dans le système, le champ sémantique propre au droit. Le mot rex, roi. On lui a donné la position centrale royale. C'est un mot issu de la même racine que l'on retrouve dans des mots tels que regula, recte, rector, rigor, corrigere, regio, regimentum, tous des mots qui jalonnent le corpus juris civilis. Autrement dit, bien avant l'émergence du mot directum et ensuite du mot droit, l'idée même de rectitude est déjà au cœur du latin juridique. C'est un message très simple. Parfois, on pense à des transformations majeures parce qu'on regarde seulement un vecteur sans prêter l'attention à ce qu'il y a tout autour. Donc il faut aussi regarder le reste du vocabulaire. Et c'est un vocabulaire qui est traversé par cette idée de rectilinéarité, de rectitude. Alors, nous essayons d'examiner de plus près cet ensemble de termes propres au langage juridique et partant du mot « rex » et de son étymologie, on rapproche justement ce mot au verbe « rego » à partir d'une racine proto-indo-européenne. Et ce mot « rego », et c'est là la surprise, ne veut pas dire « gouverner », donc ce n'est pas le mot, sa signification première n'est pas celle de « gouverner », mais c'est plutôt « tracer des lignes », « tracer droit ». Ce qui est confirmé par le parallèle « orego » en grec, qui signifie « tendre, étendre ». Donc il y a toujours cette idée de linéarité. Ainsi, être « rex » signifie d'abord exercer une fonction de délimitation. Tracer la ligne qui ordonne l'espace, un temple, une cité, un territoire. C'est seulement par extension que Rex prend la fonction de celui qui fixe ce qui est correct. C'est-à-dire celui qui institue un ordre social. C'est du moins l'hypothèse, encore une fois, d'Émile Benveniste. Mais, comme je vous le disais, il n'y a pas que Rex qui possède cette racine indo-européenne, qui signifie « tracer droit ». Beaucoup d'autres mots du lexique latin s'y rattachent également. Ils manifestent la même transposition, du sens lié à la ligne droite vers un sens moral de rectitude. Cela vaut notamment pour le verbe « recte » et les substantifs « regula ». Donc, on va développer, s'arrêter sur ces deux mots. Donc, j'espère que vous avez suivi mon raisonnement. Donc, on est en train de s'interroger sur un ensemble de mots qui sont très présents dans le lexique juridique et qui ont tous en commun la même racine, et cette racine renvoie comme sens premier à l'idée de tracer une ligne. Et donc on a exploité le mot « rex » et maintenant on va s'arrêter sur deux autres mots. D'abord le verbe « recte », correctement, qui est particulièrement révélateur. Il apparaît environ 700 fois dans le digeste de Justinien, c'est-à-dire dans les écrits des juristes classiques dont le digeste est une anthologie. Les emplois de l'adverbe « recte » sont extrêmement variés, je vous ai proposé un échantillon très maigre. Il peut désigner la correction linguistique, par exemple le premier passage « et tous ceux qui prennent à ferme quelque chose du fisc sont correctement appelés publicains », donc c'est la correction linguistique. Qui quod fisco conducunt recte appellantur publicani. Ou cet adverbe exprime la justesse d'une opinion. Marcellus, c'est un juriste, mentionné par un autre juriste, estimait correctement, c'est-à-dire à juste titre, il avait raison. Ou encore, l'adverbe est utilisé pour souligner la validité d'un comportement procédural. Même si l'arbre n'a pas été entièrement abattu, on agira néanmoins correctement comme s'il l'était. Donc, on peut disons, agir en justice correctement, valablement, même si l'arbre n'a pas entièrement été abattu, mais seulement, par exemple, abîmé. Un paiement est lui aussi qualifié de « recte », qu'on l'a accompli « recte » correctement, pour dire qu'il a l'effet d'éteindre l'obligation. Le paiement est correctement fait au véritable procureur. Donc, si je paye au mandataire, l'obligation est éteinte. Et plus généralement, c'est le dernier exemple, « recte » exprime l'idée d'un comportement conforme et approuvé par l'ordre juridique. Vous voyez ce propos isolé, mais vous comprenez le sens. « Il agira correctement et conformément à l'ordre. Vous voyez que, disons, c'est presque un couple, disons, homonyme, correctement et conformément à l'ordre. Donc, recte et ordine facet. Donc, il y a cette idée d'ordre et d'ordre juridique. Donc, nous avons interrogé les juristes, mais vous savez que normalement les poètes ont des réponses plus directes et plus convaincantes. Donc, nous nous tournons vers mon poète préféré, Ovid, qui, dans ses Métamorphoses, décrit l'âge d'or comme un temps idéal où les êtres humains se comportaient correctement, sans avoir besoin de lois ni de punitions. L'âge d'or, mythique âge d'or où il n'y avait pas besoin des lois. Vous savez que le droit est toujours, disons, le compagnon de route du péché. Donc, nous sommes tous un peu concernés. L'âge d'or fut le premier à naître, sans aucun juge de lui-même, sans loi, cet âge cultivait la loyauté, la fidesse et la rectitude, rectum. Donc, vous voyez les deux mots qu'il utilise pour indiquer le droit sans le nommer, parce que comme il n'y avait pas de droit, donc il fallait qu'il donnait l'idée sans le nommer expressément. Et donc, la façon de le dire sans le dire, c'était de évoquer le mot « fides » et le mot « rectum ». Cela pour dire que l'idée de droiture était présente dans l'imaginaire romain, bien avant les serments de Strasbourg ou le serment de Charlemagne. Donc il y avait déjà, à l'époque d'Ovide, il y avait déjà cette idée de droiture qui était strictement liée à l'idée d'une norme, d'un ordre social. Alors, on revient à notre ensemble, on se tourne vers le mot « regula ». Alors, je vous ai présenté ici, disons, un ensemble que j'ai moi-même, disons, rassemblé. Ici, on voit un ensemble, disons, de différents sa façon de se présenter, mais c'est quand même un ensemble conceptuel. Ce sont les instruments d'un menuisier ou d'un maçon, plus probablement. C'est un monument funéraire et qui vient d'une ville italienne du nord-ouest de l'Italie, Aquileia, premier siècle après Jésus-Christ. Vous voyez tous les instruments du défunt. Alors d'abord, une règle. Regula, c'est ça la règle. Un niveau, un compas, une équerre, on va y revenir, une équerre qui s'appelle norma. Vous avez déjà compris. Un fil à plomb, un maillet de pose, un ensemble de ciseaux. Donc, sont les outils de ce maçon. Alors, vous souvenez-vous du fil à plomb de l'île de Lesbos ? D'Aristote, flexible. Ici, avec la regula, nous avons au contraire l'instrument de mesure linéaire des Romains. qui n'est absolument pas pliable. Et par extension, le mot en est venu à signifier en principe à suivre. Donc il y a eu cette transposition de l'outil au principe qu'il faut suivre. En principe, habituellement exprimé sous une forme sentencieuse, presque comme un proverbe, par exemple, pacta servanda sunt. Tout le monde connaît ce propos, les engagements doivent être respectés. C'est une règle. Et on arrive à signifier l'ensemble des normes du système juridique par le mot règle. Les conventions contraires aux règles du droit civil ne sont pas valables. Donc vous voyez la place qui prend ce mot regula dans le vocabulaire juridique latin. Et comme vous l'avez compris, ce que je veux démontrer, c'est que cette idée de cet ensemble de mots qui ont comme racine commune le verbe rego, la racine même du verbe rego, jalonne le vocabulaire juridique romain et sont porteurs de cette idée de linéarité, de rigidité, bien avant l'émergence du mot directum, qui n'est qu'un phénomène très tardif. Revenons à notre ensemble. Vous voyez qu'il y a un mot qui sort un peu du cercle, mais nous le retrouvons dans ce monument funéraire, presque remis dans le même ensemble. Vous voyez, ici vous avez la règle, et ici vous avez l'équerre, c'est-à-dire en latin, norma. Et vous avez bien compris que c'est l'ancêtre de notre mot norme. Encore une fois, le mot norme, qui ne nous dit rien, je pense que la plupart parmi vous n'avaient aucune idée du fait que norme renvoie à cette idée de droiture orthogonale dans ce cas, renvoie à cet outil qu'on appelait norma en latin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un mot, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas inséré dans l'ensemble, ce n'est pas un mot norma, latin, qu'on retrouve dans les vocabulaires juridiques classiques. Ce n'est pas un mot dont il se sert. Sauf que on le retrouve utilisé par Justinien lui-même. Donc Justinien, vous savez, il a rassemblé les textes des juristes classiques, mais qui étaient des écrits qui venaient de 2-3 siècles avant lui. Mais lui-même était un législateur, et en tant que législateur, producteur de textes, il a employé le mot « norme ». Pourquoi ça me semble très intéressant? Parce que nous avons ici un autre symptôme de l'émergence de cet imaginaire lié à la rectitude, à la linéarité, bien avant le 9e siècle, quand on en retrouve les traces, par exemple, dans le serment de Charlemagne. Donc, c'était un processus qui, d'une part, était déjà présent au niveau, disons, du vocabulaire qui tournait autour de la racine de rego, mais qu'on retrouve, par exemple, aussi dans l'emploi du mot norma par Justinien, donc à la fin de l'Antiquité. Je crois donc que nous avons dit assez pour étayer cette conclusion. Je vous laisse y réfléchir. Cette idée qui était déjà en germe, on peut dire, liée la rectitude au droit, on la retrouve d'ailleurs, c'est un peu une confirmation par opposition, dans le mot delictum, délit. Parce que le mot délit est formé du verbe linquo, qui signifie abandonner, laisser, avec le préfixe de, qui signifie s'éloigner. Donc, avec ce préfixe, delinquere signifie s'écarter quelque chose. En l'occurrence, s'écarter de la ligne, s'écarter de la règle. Et donc, manquer à son devoir, commettre une faute. Donc, delictum désigne la transgression, l'écart par rapport au droit chemin. Alors, permettez-moi, en guise de résumé poétique, de citer les premiers vers de la Divine Comédie de Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure car la voie droite était perdue. La dritta via, la voie droite, est la métaphore du droit chemin en sens moral, et s'égarer de la dritta via est au fond l'idée même de délit. Je vous rappelle qu'en commençant le cours aujourd'hui, j'ai dit que je m'intéresserai aux caractéristiques, pour ainsi dire, physiques des objets juridiques. Directum, norma, regula sont donc des métaphores qui transposent dans le domaine du droit les concepts de linéarité et de rectitude, qui est en soi une métaphore. Regardons maintenant, pour conclure, un autre type de métaphore, qui est annoncé par ce relief, lié non pas à la dimension de la longueur ou de la rigidité, mais à celle du poids. Vous voyez ici, un boucher découpant de la viande, des morceaux de porc suspendus à des crochets, une balance, voici le poids, une balance pour peser la viande, et à gauche, détail charmant, l'épouse du boucher notant les comptes sur une tablette de cire. Prenons pour point de départ Cicéron, le très jeune Cicéron, engagé en 80 avant Jésus-Christ dans l'une de ses toutes premières causes, la défense de Sextus Roscius, un homme de la cité d'Améria, accusé de parricide dans un contexte politique marqué par les proscriptions de Sylla, durant lesquelles les biens des proscrits étaient confisqués et redistribués. Dans cette affaire, des proches du pouvoir avaient profité de ces confiscations et cherché à faire condamner Roscius. En défendant Roscius, Cicéron risquait non seulement sa carrière, à ses tout débuts, mais aussi sa sécurité personnelle dans un climat où la violence politique, les représailles étaient bien réelles. De choses si grandes et si atroces, je comprends que je ne puis ni parler assez efficacement, ni me plaindre avec assez de gravité, ni crier avec assez de liberté. Car mon esprit fait obstacle à l'efficacité, mon âge à la gravité, l'étend à la liberté. Cela s'ajoute en une très grande crainte qui m'assigne ma nature et ma pudeur, ainsi que votre dignité, la force des adversaires et danger qu'encourt Roscius. C'est pourquoi je vous prie et je vous supplie, monsieur le juge, d'écouter mes paroles avec attention, avec une indulgence bienveillante. En m'appuyant sur votre bonne foi et sur votre sagesse, j'ai pris sur moi plus de poids que, je m'en rends compte, je peux porter. Si vous allégez en quelque part ce poids, je le porterai comme je pourrai, avec zèle et application, monsieur le juge. Mais si vous me désertez, ce que je n'espère pas, pourtant je ne défaillerai pas en esprit. Et ce que j'ai pris sur moi, tant que je pourrai, je le mènerai à bout. Et si je ne peux le mener à bout, je préfère être accablé sous le poids du devoir plutôt que de rejeter par perfidie ou de déposer par faiblesse d'âme ce qui m'a été une fois imposé avec confiance. Alors, c'est le propos introductif de ces plaidoyers qui a évidemment pour but d'obtenir la bienveillance des juges en attirant l'attention sur le fait que Cicéron entreprend la défense de Roscius comme une preuve difficile mais nécessaire. Et pourquoi nécessaire? Parce qu'il est convaincu de l'innocence de Roscius. Donc, en soulignant les risques, on se demande, mais pourquoi donc tout en cours ces risques? Parce qu'il le mérite, il est innocent. Pour cela faire, Cicéron construit son discours autour d'une métaphore centrale, celle du poids. Elle apparaît clairement à travers le mot « onus ». « Onus » signifie justement « poids ». Et toute une série de verbes. « Sustuli ferre » ad levabitis, feram, suscepi, perferam, opprimi, impositum, deponere. Donc vous voyez à quel point est parsemé de mots qui ne font que développer la même métaphore. C'est ça qui est très important pour moi. Vous montrez que les métaphores ne sont pas seulement les plus évidentes, mais qu'ils traversent comme une trame souvent les textes, qu'il faut analyser les textes de façon un peu plus profonde pour faire sortir toutes les métaphores. Il ne faut pas se contenter des métaphores les plus évidentes. Donc vous voyez à quel point on retrouve cette trame ici. Donc « sustuli » j'ai pris sur moi, « ferre » et « perferam » porter, supporter jusqu'au bout, « ad levabitis » alléger, « levis » il y a le mot « levis » léger, surtout opprimi, mais on irait être écrasé, accablé par le poids. Défendre, ici, ce n'est pas simplement parler, c'est assumer une charge si lourde qu'on risque d'en être écrasé. À cette image s'ajoute une tonalité presque militaire, surtout avec le verbe deserar. Le vocabulaire latin deserere signifie abandonner. Est aussi déserté, quitter son poste, laisser tomber ses compagnons en pleine action. Cicéron suggère donc que renoncer à la défense reviendrait à une désertion. Face à cela, non deficiam. Je ne faiblirai pas. Et perferam, j'irai jusqu'au bout, exprime au contraire une logique de résistance, de tenue. Il s'agit de rester en place, de ne pas céder comme un soldat qui tient sa position. Enfin, cette attitude est profondément fondée sur la fidesse, sur la loyauté, et le passage parle de ce qui lui a été confié cum fide, c'est pas avec confiance, et on voit le contraire s'il laisse tomber, ce sera par perfidie. Donc c'est le mot contraire. Ainsi, Cicéron articule le poids de la charge, la fermeté quasi militaire face à la tentation de déserter et l'exigence éthique de la fidesse. Défendre, c'est tenir jusqu'au bout par fidélité un engagement qui oblige absolument. Alors, voyons maintenant, et je vous demande de ne pas me déserter, d'aller jusqu'au bout avec moi, parce que ça va devenir vraiment très lourd à supporter parce que je monte toujours en difficulté, mais je vous connais, vous n'allez pas me laisser seul, je ne vais pas me tourner et voir que j'ai été abandonné. Parce que c'est le moment de voir à quel point ces métaphores ont imprégné aussi le discours des juristes. On se tourne maintenant vers un juriste que nous avons beaucoup exploité. Moi-même, faut le dire, c'est un juriste que j'ai beaucoup apprécié au fil de nos cours cette année, Papinien. Et comme vous le savez, c'était le juriste qui était le plus apprécié dans l'Antiquité, mais je l'ai découvert avec vous cette année un peu. Donc, il était actif sous les Sévères, donc fin du IIe siècle, tout début du IIIe siècle. C'est celui qui a été tué par Caracalla parce qu'il n'avait pas accepté de justifier le meurtre de son frère Geta. Alors, on voit on regarde le texte maintenant. Le procureur, c'est-à-dire le mandataire, dirions-nous, qui, pour l'éviction du fonds qu'il a vendu, alliait sa foi. J'ai essayé de traduire, en gardant les métaphores autant que je pouvais, allier sa foi, fidem suam adstringsit. Même s'il a cessé de gérer les affaires, ne sera pourtant pas allégé du poids de l'obligation. Par le secours du prêteur, car le procureur, qui pour le maître a pris sur lui le lien de l'obligation, refuse en vain son fardeau. Alors, je pense que vous avez tout compris, vous avez pu faire la comparaison mentale avec le texte de Cicéron, mais on va essayer de voir ça de plus près. Alors, il s'agit d'une question très technique qui se déroule, pour ainsi dire, j'essaie de vous faire comprendre, elle se déroule moins dans le monde réel qu'à l'intérieur même du monde du droit, de ses institutions. Bien sûr, il y a aussi des personnes, des comportements, une scène en mouvement, mais tout cela reste comme désincarné, pour une fois. C'est un peu comme si on voyait les mécanismes de l'horloge de droit fonctionner, pas tant les protagonistes. Alors, vous voyez ici les mécanismes de cette horloge qui sont mis en mouvement ici. On va y revenir de façon un peu plus appuyée. Alors, le problème juridique posé par ces fragments est le suivant. Alors, un mandataire, quelqu'un qui a reçu une charge, on lui a demandé de gérer une affaire pour nous, dans notre intérêt. Donc, un mandataire qui agit pour le compte d'un autre, peut-il être tenu personnellement par les engagements qu'il a contractés pendant le déroulement de sa gestion, même après la fin de son mandat? Ça, c'est la question juridique. Vous voyez tout l'intérêt, ce n'est pas du tout une question théorique. C'est très important de savoir que quelqu'un a géré nos affaires, qu'il est engagé même après la fin de son mandat. Alors, le passage présente une structure assez claire. Il est divisé en deux parties, liées par un rapport causal, on va le revoir, introduit par l'adverbe « nam ». Donc, Papinien commence par exposer un cas concret, celui d'un mandataire qui vend un bien et s'engage à la garantie d'éviction, c'est-à-dire, il s'engage à indemniser l'acheteur si celui-ci est évancé par un tiers ayant un meilleur droit. Donc nous avons d'abord le contrat de mandat qui, disons, porte sur la vente d'un bien que le mandant souhaiterait vendre par le biais de son mandataire, et lors de la vente qu'il exécute, le procureur, le mandataire, garantit à l'acheteur qu'il va le repayer dans la mesure du double du prix qu'il a payé au cas où cet acheteur subira la revendication d'un tiers qui revendiquera avec succès le bien vendu en disant « mais le bien est à moi, moi je suis le propriétaire ». Donc ce n'était pas le mandant qui était le propriétaire, et comme il revendique ce bien, l'acheteur doit le lui remettre. même s'il a payé le prix. Et le procureur, qui était, disons, celui qui a fait le trait d'union entre le mandant et l'acheteur, s'était engagé à le rembourser dans la mesure du double du prix. Est-ce que cette obligation survit à la fin du mandat? Au cas où l'acheteur, effectivement, est poursuivi en justice par un tiers T et il doit remettre le bien qu'il avait acheté. Selon Papinien, c'est la réponse de Papinien, l'acheteur pourra à son tour agir en justice contre le mandataire sur le fondement de la garantie d'éviction, même après que le mandat de ce dernier a pris fin. Donc, je vous ai expliqué la structure du texte, mais la vraie question, comme toujours pour nous, ce n'est pas savoir quelle est la fin, c'est comme lire la dernière page du roman, ça n'a aucun sens. Ce qui nous intéresse, c'est le parcours. Comment est-ce que le juriste arrive à cette conclusion? Alors, en lisant ce texte, on est un peu pris de court, on est un peu dessus, parce que même s'il a une structure en deux parties, et cette structure semble impliquer d'abord le cas et ensuite la justification, et le mot qui devrait lier de cette façon causale les deux parties est l'adverbe nam, car, en effet, mais on va voir, effectivement, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment très différent, les deux parties semblent plus ou moins dire la même chose. Donc, ce n'est pas la deuxième, elle est l'explication de la première. Ce que les deux, pardon, ce que les deux parties du passage, le cas concret, première partie, question, réponse, et la justification ont en commun, en définitive, c'est le langage. Et donc, ce que je vous propose, c'est de déceler la motivation en transparence dans le langage lui-même. Même pas dans l'articulation du langage, mais dans la sémantique du langage. Le langage est celui, encore une fois, du poids, de la confiance et du lien. Donc le poids, la confiance, on l'avait trouvé chez Cicéron. Et ici, on trouve aussi le langage du lien. Le mandataire qui, en vendant la chose d'autrui, promet à l'acheteur de l'indemniser en cas d'éviction, c'est-à-dire si l'on découvre ensuite que la chose n'appartenait pas au mandat, mais à un mandant, mais à un tiers, et que l'acheteur est contraint de la restituer au véritable propriétaire, c'est précisément engagé à cette indemnisation. C'est à ça que renvoie la formule « fidem suam adstringsit », à lier sa foi. Aussitôt après, dans le passage, ce lien très étroit se transforme en poids. Le poids de l'obligation. Vous voyez, le procureur qui a lié sa foi, même s'il a cessé de gérer les affaires, ne sera pourtant pas allégé du poids de l'obligation par les secours du prêteur. Et pourquoi l'obligation, c'est un poids? Quelle est l'image qu'il y a derrière? C'est rien d'étonnant, je pense que vous le savez déjà. Le lien, au sens concret, ce sont des chaînes. Et les chaînes pèsent. Ainsi, sur le mandataire qui s'est engagé envers l'acheteur, pèse le poids de cette chaîne qui est l'obligation. Et en poursuivant la métaphore, Papinien dit que ce n'est pas l'affaire du prêteur de l'alléger de ce poids. Le prêteur est l'organe de la justice. On a presque l'image du prêteur comme d'un compagnon d'armes, vous vous souvenez du passage de Cicéron, qui devrait aider à porter la charge d'un autre soldat, mais Papinien refuse cette idée, le prêteur ne le fera pas, parce qu'il incarne le système juridique. Donc, ce n'est pas l'affaire du prêteur d'alléger le poids que le mandataire a pris sur lui en liant sa foi. On passe alors à la seconde partie, que, comme je vous le disais, devrait expliquer, mais qui, effectivement, ne fait que répéter les mêmes images en les généralisant. Ici encore, l'obligation est figurée comme un poids, l'onus obligationis. Et l'on assume, que l'on assume et que l'on ne peut ensuite pas refuser. Alors, on retrouve en gros le même langage que dans le passage de Cicéron, mais ce qui distingue Cicéron de Papinien, au-delà de l'élégance formelle, bien plus développée chez Cicéron, ça va de soi, c'est précisément le thème du lien, que vous voyez ici dans ces deux mots. Parce que c'est vrai, Cicéron évoquait lui aussi la fidesse, mais Papinien parle d'un lien par lequel on impose, on encercle sa propre loyauté. Et ensuite, lorsqu'il parle d'obligation, il souligne bien sûr le poids, comme le faisait Cicéron, mais il souligne encore une fois, il reprend la même métaphore, le lien, vinculum obligationis. Donc vous voyez que ce que dans Cicéron n'était qu'un poids, bien sûr Cicéron avait assumé et refusé de laisser tomber, dans le passage de Papinien, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est la métaphore du lien. Et par le biais de la métaphore du lien, c'est la force contraignante du droit qui fait son apparition dans ce texte. Et c'est ce qui change par rapport au texte de Cicéron. Pour conclure, le droit, qu'il soit entendu comme ordre juridique ou du point de vue de ses effets, est souvent représenté en termes physiques. La métaphore de la linéarité que certains affirment n'avoir été introduite qu'au Moyen Âge traverse déjà tout le lexique latin classique. Directum, droit, lorsqu'il émerge avec Charlemagne et les serments de Strasbourg, est déjà préparé depuis des siècles. Voilà pourquoi il me semble qu'étudier le langage, notamment du point de vue des métaphores, est utile aussi du point de vue de l'histoire du droit et des mentalités. Nous avons ensuite exploré l'idée du poids, et au fond, les deux images se renforcent mutuellement par les biais du lien. Une fois qu'on a choisi une ligne de conduite, celle du droit, ligne de conduite, celle du droit, il faut la suivre sans s'en écarter, vous vous souvenez du mot delinquere, delictum, même sous le poids qu'elle impose. Et le poids est signifié par le mot obligatio, qui est à la fois quelque chose qui pèse, ce sont des chaînes, mais aussi quelque chose qui contraigne, parce qu'il s'agit d'un lien. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.